Bonjour à toutes et à tous. Dans les dernières émissions, je vous ai parlé de la France moche. Et à cette occasion, je vous ai cité des beaux penseurs, des professeurs d'université, des politiques, des ce qu'on peut appeler l'élite. Et pour traiter ce sujet, se baser sur des données qui étaient contestables et quand elles n'étaient pas carrément fausses, notamment sur les idées d'urbanisation. Donc, on entend dire très souvent qu'Internet apporte dans le débat public une mauvaise qualité, c'est-à-dire que tout le monde pouvant prendre la parole, on a une sorte de café du commerce mondialisé, ou du moins dans les réseaux, d'une manière absolument continue. Nous avons des informations qui ne sont pas vérifiables, vérifiées, et bien sûr, nous avons des informations qui sont fausses. Bon, tout cela indigne certains beaux esprits. Bon, je pense que c'est le prix à payer d'une certaine démocratisation de la parole. Effectivement, on peut en voir les côtés négatifs que tout le monde connaît, mais aussi on peut en voir des côtés positifs dans justement cette prise de parole qui n'est pas réservée qu'aux clercs, qu'à une élite. Alors, il est évident que tout un chacun est à même de savoir d'où l'information vient et d'en prendre les bonnes distances ou du moins les réfuter, mais cela ne me semble pas quelque chose de dramatique en soi. Il est évident que il s'agit de faire un tri, mais ce tri on le fait soi-même dans la vie. Et on ne peut pas accuser Internet de ce qui a été aussi la même accusation qui a été faite à l'imprimerie, où tout d'un coup le savoir était beaucoup plus partagé par un grand nombre de personnes à travers les livres imprimés qu'il était avant quand il y avait les livres manuscrits et de même que l'écriture par rapport au langage oral. Enfin, tout cela sont des changements du monde qui ne me semblent pas, contrairement à ce que l'on peut dire, des révolutions, mais simplement des cycles. Et on est actuellement dans une sorte de cycle de l'oralité où les paroles deviennent beaucoup plus fluides et voyage par rapport au monde de l'écrit. Alors on peut trouver des avantages dans tous les systèmes. Mais ce n'est pas le but de mon propos, puisque pour revenir au sujet qui nous occupe, c'est-à-dire celui de la parole savante, de la parole des élites, et serait-elle, et c'est une question que l'on peut se poser, serait-elle contaminée par le débat, on peut dire du café du commerce, en tout cas par cette une sorte de vulgate généralisée de la parole, ou est-ce que on peut faire le tri entre cela? Alors comme je vous avais déjà dit, je trouve extrêmement choquant que ces prises de parole publiées récemment à propos de cette France moche et du sujet qui nous occupe ici, l'urbanisme et l'architecture, on ait des erreurs aussi énormes que, par exemple, celles des fameux départements qui disparaissent sous le béton tous les 7 ans et qui feraient que l'Occitanie serait une sorte de grande dalle de béton sur tous ces départements, ce qui est évidemment une absurdité qui frapperait tout le monde. Mais donc le propos d'aujourd'hui, c'est la parole des élites, et en premier lieu, par exemple, celle du président de la République, qui reprend ces informations, comme l'information sur les morts par la pollution, et où il a repris textuellement les 100 000 morts par an de la pollution qui ferait que on meurt de la pollution plus que de toute autre maladie. Ça serait la première cause, enfin, ça serait, il dit que c'est la première cause de mortalité en France. Alors, moi, j'aimerais bien savoir, c'est quoi la mort par la pollution? Quelle maladie? Si c'est le cancer des fumeurs, c'est pas la pollution, c'est la pollution individuelle. Il y a effectivement des morts de, on peut dire, par des maladies industrielles, même si ça c'est énorme, ça a énormément diminué. Et c'est heureux avec la réglementation, avec des outils nouveaux qui permettent justement les filtres par rapport à tout ce qui était justement lié aux poussières industrielles pour les gens qui avaient le nez dessus. Mais alors, est-ce que vous connaissez autour de vous beaucoup de personnes qui sont mortes de pollution? Alors, quand on parle ce chiffre de 100 000 personnes, alors ça fait sur une période qui serait, donc on revient toujours sur les 70 ans qui nous séparent de la fin de la guerre, on peut dire, où la France s'industrialise, le chiffre, évidemment, serait phénoménal et on aurait l'île de France qui disparaîtrait. On s'en serait aperçu. Donc c'est quand même extrêmement grave, non seulement que ces propos soient tenus, mais que ces propos ne soient pas contredits par les personnes qui sont supposées être les sachants, et notamment les milieux médicaux. Alors là, c'est quand même quelque chose qui me paraît être parfaitement dangereux, parce que on voit par exemple dans Marianne Magazine, tout à fait intéressant, le numéro de il y a la semaine dernière, ou il y a 15 jours, qui est consacré aux déserts médicaux. Alors, on parle de 22 millions de personnes, de Français abandonnés, et l'image est effectivement une sorte de grand champ immense avec aucune maison, et qui ferait croire qu'il y a des déserts, en fait. C'est-à-dire que on passe de la notion de pénurie de médecins, et on sait que cette pénurie, elle a été fabriquée par le numerus clausus qui a été imposé par je ne sais quelle, ou la corporation elle-même, ou les politiques, ou pour faire des économies de santé, soi-disant. Et on se trouve devant un manque de médecins, à la fois hospitaliers, à la fois généralistes, à la fois spécialistes, c'est une situation absolument ubuesque, et on ne cherche pas les responsables, mais on met les déserts médicaux. Donc il s'agirait de voir avec l'image qui est donnée, on passe de la pénurie. Alors, quand il y a une pénurie de quelque chose, le mot désert, effectivement, n'est pas très adapté. Je sais pas, s'il y a un manque de masques pendant la crise du Covid, ou de pharmacie, c'est pas un désert. C'est simplement, il y a un masque d'une certaine denrée. Et comme aujourd'hui, il peut y avoir un manque d'essence dans les stations-service, ça ne fait pas de la France un désert. Donc, ce mot désert étant mal employé, surtout qu'il y a l'image qui est jointe. Dans l'image qui est jointe, renforce ce propos qui est celui d'une France qui serait urbaine, avec des immenses territoires qui ne seraient pas occupés. C'est-à-dire, on revient à cette espèce de « La France et le désert français » qui était un livre de l'après-guerre de Jean-François Gravier, qui était un technocrate, qui était, comme je vous en ai déjà parlé, un livre assez imbécile, qui traduisait effectivement le fait que il y a une concentration de la France par rapport aux régions, et on le sait, et les lois de décentralisation ont été les bienvenues dans ce sens, mais en fait, la population ne se concentre pas dans les villes, et il s'agit exactement, au contraire, d'un phénomène de dispersion qui, on peut dire, peut être daté des années 75, où on a eu l'inversion de l'exode rural, qui avait des raisons tout à fait objectives. La mécanisation faisait que on avait moins de gens pour travailler sur les terres, donc ces populations surnuméraires dans les villages de nos campagnes, eh bien trouver des nouveaux métiers. Alors c'était à la fois dans l'industrie qui se développait et aussi dans le tertiaire, dans l'administration. Donc on a ce transfert de population. Après, à partir des années 75, ça se stabilise et ça s'inverse. Et aujourd'hui, on vous parle du paysage qui serait mité, on vous parle des villes qui s'étendent en fait c'est pas les villes qui s'étendent, c'est-à-dire qu'il y a une dispersion de la population, alors qui peut être plus densifiée et plus dynamique dans les très grandes périphéries des villes, mais qui fait que c'est plus des périphéries, c'est le territoire lui-même, donc effectivement qui est plutôt raccordé à certains pôles qui concentrent ne serait-ce que l'administration, mais en tout cas cette vision de la France mondialisée qui tirerait la France urbaine mondialisée qui tirerait l'économie par le haut, évidemment est une fiction complète. Alors on en venait au problème qui est le problème de cette post-vérité, du fait que on puisse donner des informations aussi fausses, et ça c'est vraiment quelque chose qui est à mon sens dramatique, et on va développer ça dans la deuxième partie après une pause musicale. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River run free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Bien sûr, ce que je vous disais tout à l'heure sur l'urbanisation est très important sur les politiques que nous avons actuellement et que nous allons avoir, puisqu'en fait, si on a des chiffres faux et une vision totalement déformée de notre pays, c'est une vision déformée de notre pays qui est propagée par les principaux responsables. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait une France qui se dépeuple, donc par rapport à ce que je vous disais sur ce désert médical, c'est-à-dire de voir la France comme un désert à repeupler, avec des villes qui étouffent par la population. Alors, on mélange beaucoup de choses, et en fait, ce n'est pas la réalité des chiffres. Il vous suffit de prendre l'INSEE et de regarder que le repeuplement et la dispersion, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais en tout cas, la répartition sur le territoire est assez homogène et n'est pas un phénomène négatif. C'est au contraire, on a un repeuplement. Alors, il est évident que c'est vrai qu'il y a certaines zones, dans certains villages, où il y a un manque de services, etc. Mais c'est un autre problème, ce n'est pas un problème de population. Alors, tout n'est pas parfait, mais ce que l'on a entendu dans les dernières semaines, la proposition de disperser les migrants dans les villages avec justement cette idée de repopulation qui a pu être, ça a pu être la forme qu'a pu prendre les repopulations dans certaines époques où on a eu effectivement les villes nouvelles, par exemple, au Moyen-Âge, c'était des politiques d'urbanisation volontaire, et là, il semblerait qu'on essayait de faire la même chose. Mais en fait, c'est un problème qui est totalement créé, et il n'y a pas justement ce manque de population dans les villages, et on essaie, juste à partir de ces données qui sont fausses, et la publicité qui en est faite, qui est erronée, on aurait une politique qui effectivement ne correspond pas du tout aux besoins des populations. Voilà, alors je ne vais pas aborder le problème de l'immigration, qui est un problème politique sur lequel chacun pense ce qu'il veut, mais simplement sur ces actions qui me paraissent déraisonnables et surtout des post-vérités et totalement fausses sur leur fondement. Alors, par exemple, aussi, on a entendu, pour parler de ce problème de population, on a souvent entendu, et on l'entend d'une manière continue, on parle des ghettos, on parle aussi de l'assignation à résidence, c'est-à-dire qu'en fait, il y aurait des populations qui seraient bloquées, interdites de sortir, ce qui est l'origine du mot ghetto. Petit rappel que tout le monde sait, mais enfin, des fois, il est bon de rappeler les choses. Il s'agissait d'avoir les populations juives qui pouvaient être soumises à des pogroms, alors soit d'une manière volontaire pour les écarter des chrétiens dans des situations justement de séparatisme, ou alors aussi par protection. Par exemple, dans le ghetto de Venise, il y avait des portes qui étaient fermées le soir pour empêcher justement les pogroms et que l'on vienne agresser ces populations. Donc, dans tous les cas, c'était des populations qui étaient séparées et hors de l'espace collectif. Et évidemment, il ne s'agit absolument pas de ça, parce qu'il n'y a ni porte, et au contraire, les fameux quartiers qui sont en fait les grands ensembles construits dans l'après-guerre pour les Français et pas pour les populations migrantes, puisqu'en fait, à ce moment-là, il n'y avait ni la décolonisation, ni la fin de la guerre d'Algérie, donc dans les années 50 et 60. Il y avait, dans cette période de l'après-guerre où il y avait eu le baby boom, donc il y avait aussi des destructions de villes, il y avait dans les villes un grand nombre d'habitats insalubres et une grande partie de la classe moyenne a pu se loger dans des conditions décentes au niveau hygiène, c'est ce qu'il faut rappeler. Donc, contrairement à ce qu'on entend dire des fois, il ne s'agit pas de bâtiments qui ont été construits pour l'immigration, qui ont été construits à la va-vite, ce n'est pas du tout cela. construit la va-vite est mal construit, ce qui est aussi encore totalement faux, mais aussi ça fait partie des choses qui ont justifié des démolitions complètement inutiles et qui ont coûté bien cher à la nation. Donc, je ferme la parenthèse par rapport à cela. Mais on est au cœur d'un débat sur des données totalement fausses, et aujourd'hui, ce problème du séparatisme se passe et se pose avec une certaine acuité, et notamment le fait qu'il y a, sous l'influence politico-religieuse d'une partie de la population musulmane qui est, on peut dire, dans une forme agressive, justement voulant ce séparatisme, et ce qui n'a rien à voir avec les ghettos, mais qui veut se distinguer par des habits différents de la population. Donc on a d'un côté un appel à la mixité sociale, et puis de notre côté, on a une... on peut dire en face-à-face politique, avec des institutions actives, des groupes actifs, des associations qui travaillent pour justement isoler cette partie de la population qui est évidemment pour des raisons historiques importantes dans notre pays. Alors, je vais dévier un peu du sujet principal, et mais rappeler l'importance des mots et des définitions. Donc on a parlé en début de l'émission de ce mot désert qui est une erreur sémantique, puisqu'il ne s'agit pas de déserts médicaux, ils ne sont pas des déserts à proprement parler, des espaces désertiques dans lesquels il n'y aurait personne. Par exemple, au Canada, il y a des véritables déserts, puisqu'il y a des États dans le nord du Canada qui sont très peu peuplés, où effectivement on force des médecins, il y a des contrats qui sont passés avec les jeunes médecins pour faire une sorte de service civique dans ces territoires qui sont effectivement des territoires très peu peuplés, des territoires qui sont très froids l'hiver, avec des hivers considérables, enfin des situations qui n'ont absolument rien à voir avec celles de notre pays. Alors, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que les mots ont leur importance. Et par exemple, on a, par rapport à ces populations, un conflit qui se passe au niveau du vêtement. Et on le sait très bien, bon, c'est l'histoire du voile islamique qui fait débat actuellement. Alors d'une part, on a ce renvoi de ce qui se passe en Iran aujourd'hui, où les femmes veulent être dévoilées, et le mouvement politique est contre la théocratie dictatoriale qui est en place en Iran. Et on a le phénomène inverse en France, où on a du soutien pour que ce voile soit autorisé, même s'il a été limité, par exemple dans les écoles, mais il y a un fort conflit parce que ce voile est mal défini, et on est piégé par les mots. On en revient toujours aux questions sémantiques. Alors, dans le cas du voile, il s'agit donc de la loi de la séparation de l'Église et de l'État, qui est une loi fondamentale de notre République laïque, la loi de 1905, et ses amendements en 2014, dans lequel on a le problème du voile islamique qui est posé, mais qui est posé évidemment pas d'une manière aussi claire que je suis en train de vous dire, mais on a parlé des signes religieux ostentatoires, c'est-à-dire qu'on se raccroche à la loi de la laïcité, mais avec quelque chose qui est extrêmement imprécis. Alors, effectivement, signe religieux ostentatoire, on parle des croix, on parle des kippas, des israélites, mais bien sûr, le problème, c'est le marquage dans l'espace public d'une partie de la population et ce marquage se ferait par une manière de se vêtir différemment. Alors là, les précautions qui ont été prises en parlant de signes religieux ostentatoires ont fait que on se trouve devant quelque chose qui est indéfini parce qu'on a voulu préciser le vêtement comme étant et porteur, mais sans aller au-delà. Donc les chefs d'établissement aujourd'hui demandent aux législateurs de préciser, puisqu'ils se trouvent devant des conflits, alors des conflits qui vont se traduire par des conflits juridiques, et on sait une époque où nous sommes dans une époque où c'est extrêmement à la mode de faire des conflits juridiques, et cette... cet aspect conflictuel est mal perçu évidemment par les responsables qui sont responsables chefs d'établissement qui se trouvent devant quelque chose qui est difficile à définir. Alors on aurait une sorte de phénomène inversé de l'Iran où justement le voile mal porté par une jeune femme lui a valu d'être maltraité, torturé et in fine tué. Et parce qu'il était mal porté, c'est-à-dire qu'il y avait une question de centimètres par rapport à la chevelure. Et là, on aurait le phénomène inverse, c'est-à-dire comment l'interdire, interdire le port du voile par rapport à un voile qui serait justement pas couvrant. Voilà, donc on n'en sort pas par rapport à cela. Donc je pense qu'il faudrait en revenir à une vision beaucoup plus large de ce qu'est la ville, l'urbanisme et l'architecture. Et là, je renvoie à la fonction symbolique des bâtiments qui sont des unificateurs du territoire depuis, je pense, toutes les civilisations qui ont été des civilisations qui construisaient. Et par rapport à cela, on devrait rappeler le terme symbole. Le symbole, il faut rappeler ce qu'est un symbole, c'est justement, c'est quelque chose qui n'est pas une mimésie, ce n'est pas quelque chose qui est identifiable comme tel, mais simplement c'est une convention qui est au cœur de notre langage et de la civilisation. Et quand on parle de symbole religieux, ça peut être, par exemple, le symbole religieux, ça peut être la manière de se signer avec la croix, qui est simplement un geste, et ce n'est pas forcément un bout de tissu. Donc, ce que l'on pourrait faire pour, on peut dire, unifier la nation, c'est-à-dire de parler de l'espace public et le renvoyer à la symbolique, et à la symbolique de la neutralité. C'est-à-dire qu'en fait, l'espace public soit un espace exemple du caractère religieux de vestimentaire. Et du vestimentaire, mais aussi qui peut être le caractère, par exemple, des signes. On sait par exemple que la loi le permet, le haïlitaire avait le bras tendu, ce n'est pas un vêtement. Et on n'a pas besoin d'être habillé en nazi. Et c'est un signe qui est interdit. Donc on pourrait interdire dans l'espace public et le réserver à l'espace privé, et aussi dans les lieux de culte, qui sont les églises, les mosquées, les temples, les ashrams, que sais-je donc. Alors évidemment, seraient exemptés et identifiables les clergés, qu'ils soient, encore une fois, les clergés catholiques, protestants, les imams, les moines bouddhistes, ou aussi les moines, les religieuses, enfin, des gens dont c'est la fonction et qui sont identifiables dans l'espace public et qu'on n'ait pas justement un flou entre des gens qui sont vêtus de grandes robes et qui ont l'air d'être des moines ou je ne sais quoi, et qui en fait ne sont que des populations dans notre pays. Alors, chaque pays peut avoir ses modes, mais on pourrait effectivement, à partir justement d'un changement sémantique qui est important, introduire donc, et je vais conclure avec cela, remplacer les signes religieux ostentatoires par les signes symboliques, alors qu'ils soient ostentatoires ou pas, les signes symboliques, c'est tout. Donc le mot symbolique permettrait de justement de rétablir la notion d'espace public qui me paraît être le fondement de l'urbanisme. Alors vous voyez, nous sommes avec les mots et le sens des mots, avec ghetto, avec les mots justement sur les vêtements, au cœur de la question urbaine. Je vous souhaite une bonne semaine.